On va enchaîner, on est bien dans les temps, alors on va enchaîner tout de suite avec une communication de Philippe Roisès. Philippe, je te laisserai peut-être te présenter en 30 secondes et après tu as la parole et c'est à toi.
Bonjour, donc je m'appelle Philippe Roisès, en gros, à plusieurs titres, je fais partie encore de la scène punk en m'investissant dans diverses choses. Et à part ça, je suis auteur et réalisateur de documentaires. Donc en introduction, je dirais juste trois petites choses. Pour ceux qui peuvent s'interroger, pourquoi on va parler des skinheads qui ne sont pas des punks? À partir du moment où toutes les premières générations en France de skinheads sont des anciens punks et qu'il y a des tonnes de codes qui sont en fait en commun, on peut considérer que c'est un ensemble satellite. On va distinguer le supporterisme, qui est un engagement à la fois passionnel et corporel de soutien à un club de football, et puis le hooliganisme, qui est du vandalisme de groupe allant jusqu'à la baston. Tous les supporters ne sont pas des hooligans, et c'est quand même important de le souligner. Forcément, comme on va évoquer le COP de Boulogne, on va parler forcément à un moment de politique. La première partie, donc le COP of Boulogne, la tribune pionnière. Donc j'ai choisi de travailler uniquement d'ailleurs sur le COP de Boulogne par manque de temps, et puis parce que c'est la première tribune de supporterisme ultra en France. Mes deux parties sont déséquilibrées. La première partie, elle est historique parce qu'on est obligé d'y passer. La deuxième est plus philosophique, elle sera plus courte. L'émergence du COP of Boulogne. En 73, il y a la création du Paris Saint-Germain Football Club, qui est en fait une création un peu artificielle, parce qu'il n'y a pas de public au départ, c'est pas du tout un club qui est supporté par les Parisiens, il y a très peu de monde qui vient les supporter. Et pour donner un coup de fouet, de l'engouement, en septembre 76, la direction crée la carte d'abonnement des jeunes supporters pour attirer un public de moins de 16 ans qui sera plus fougueux, plus énergique. Le 2 août 78, ces jeunes supporters sont déplacés en tribune Boulogne, derrière les buts. C'est un endroit où on ne voit pas bien, mais en même temps, ils payent très très peu cher cet abonnement qui leur permet de revenir régulièrement. Et c'est là la véritable naissance du COP de Boulogne, en référence à la tribune des supporters de Liverpool, qui appelait leur espace le COP. Au départ, c'est une cinquantaine de jeunes, beaucoup de punks, dont un qui a été une figure, Manu, le chanteur d'un groupe qui s'appelait Sherwood. Et beaucoup d'autonomes, donc on peut parler d'une extrême gauche illégaliste flirtant avec la délinquance. Tous ces gens-là sont attirés par la passion du football, par l'ambiance et le bordel qu'ils peuvent y mettre, et la satisfaction d'avoir une espèce de territoire libre. Leur modèle, il est anglais, c'est donc manifestation de soutien très ostentatoire et bordélique, par le cri, le chant, le fait d'être corporellement engagé, et essayer de conquérir à sa cause l'ensemble du parc, puisque les matchs se jouent au Parc des Princes, avec un chant notamment « Le parc est avec nous », et ça répondait pas du tout. Hein. La plupart des gens qui venaient voir les matchs étaient contre le PSG, y compris des Parisiens. Peu à peu, il va se mettre en place d'autres pratiques, envahir les tribunes adverses, donc y aller, montrer sa présence sur l'ensemble du parc, voler les écharpes, les drapeaux, les casquettes des supporters des équipes adverses, et puis, à des moments, des sièges arrachés et des bastons qui, au départ, sont à l'extérieur du stade et qui sont rares au début. Il faut préciser qu'à l'époque, il n'y a pas de fouille à l'entrée. À partir de la mi-temps, on peut circuler dans l'ensemble du stade et la présence policière est limitée ou carrément inexistante, selon les matchs. À partir de 81, il y a ce qu'on appelle les déplacements, quand des supporters du PSG vont voir un match du PSG dans une ville de province. À partir de 81, ces déplacements, ils sont ingérables. Il y a des bastons tout le temps. Il y a des magasins qui sont... les vitrines sont cassées. Il y a des trains qui sont vandalisés. L'équipe du PSG et les Parisiens, en général, sont détestés en région. Manu, le chanteur de Sherwood, parle du fait que cette prise des tôles et cette fait massacrer la tête par des gens dans différentes régions, ça a forgé une identité parisienne contre la France entière. En 1982, le COP de Boulogne compte déjà 1500 supporters. On était parti de 50 au départ. Il faut préciser que le hooliganisme ne concerne pas l'ensemble de la tribune, mais qui devient une réalité indéniable et que la violence va aller de manière exponentielle. Alors, le mimétisme skinhead, il y avait déjà des tournois de foot qui étaient organisés, hein, depuis sans doute le début des années 80, entre des punks, des skins français. Alors, je pense à des membres des Trotskids, à des membres d'RAS, même à des membres de Berger et Noir. Il y avait des matchs qui étaient faits comme ça, des membres de Tall Black Toads, des matchs amicaux comme ça, le week-end, entre eux. Le mimétisme, il est évidemment par rapport à la Grande-Bretagne, où le football fait une partie intégrante de la culture skinhead depuis les années 60. Les premiers skinheads du PSG, on peut citer une personne qui s'appelait Boris, qui était un peu plus âgé que les autres, un type qui s'appelle toujours d'ailleurs Eric, et qui se faisait d'ailleurs surnommer Hooligan. La plupart, pas tous, mais la plupart, c'est des punks qui sont devenus skin. Il y a une figure qui s'appelle Chômeur, qui était un punk. Il y a quelqu'un qui s'appelle Sniff, qui était après le chanteur de Evil Skin, et qui était punk quand il est arrivé au Parc des Princes. Il y a d'ailleurs certains, comme Chômeur, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il traîne peu, il ne va pas au concert, il est réputé pour avoir une culture musicale assez faible. Plutôt une affaire de look et d'engagement passionnel, et punk au sens bordel. Et puis c'est intéressant de noter que la première bande de skinhead, celle des Halles, qui commence en 79, elle est fan de foot, mais elle ne va pas aller au Parc des Princes. Elle suit les matchs à la télévision, elle ne se déplace pas au Parc des Princes. À partir de 82, il y a une convergence des skinheads de plein de bandes parisiennes et de banlieues qui, par mimétisme avec l'Angleterre, vont venir, par curiosité aussi, parce qu'ils entendent parler de skin du PSG qu'ils n'ont jamais vu ailleurs. Et on peut dire que la passion du football, ce n'est pas du tout ça ce qui les a attirés vers le Parc des Princes. À partir de ce moment-là, les skinheads vont revenir de plus en plus nombreux et vont faire de Boulogne leur propre tribune. C'est là que commencent évidemment les saluts nazis, au départ par provocation. En 84, c'est la désertion de la tribune par les punks, pour deux raisons. La première, c'est que les bastons sont incessantes et que ça devient infernal avec les skins. La deuxième chose, c'est qu'il y a un peu une évolution. Le football devient un peu, synonyme de beaufitude dans le milieu punk. Manu, le chanteur de Sherwood, dira « En 1984, il n'y a pas eu un match où je ne me suis pas battu avec les skins. Je passais mon temps à surveiller si je n'allais pas me prendre un siège dans la tête. » J'ai été chassé, en quelque sorte. Il est très représentatif des punks qui étaient là dès le début et qui ont quitté la tribune Boulogne. En 84, il y a un événement très important qui est le match France-Angleterre. Toutes les bandes de skinheads de Paris vont faire corps contre les Anglais en disant qu'en gros, c'est leur tribune et que ce n'est pas les Anglais qui vont faire la loi. Le niveau de hooligalisme des Anglais est bien supérieur, donc les Français ne vont pas leur mettre une tannée du tout. Mais ça va renforcer une espèce de volonté de défendre leur stade, leur tribune. C'est intéressant de noter aussi qu'en 84, parmi les hooligans anglais, il n'y a déjà plus de skin. C'est déjà fini en Angleterre, en tout cas dans le football. On ne peut pas aborder le COP de Boulogne sans parler de la coloration nationaliste et les tentatives de recrutement. En mai 85, il y a un événement très important qui est le drame du Hesel en Belgique, où il va y avoir beaucoup de blessés et beaucoup de morts. Il y a la présence d'un Français, celui que j'ai cité, Eric Hooligan, qui sera présent, qui habite en Angleterre à ce moment-là, et qui vient avec des supporters anglais. Et suite à ce drame, Canal+ va effectuer une interview de différents skins qui sont dans la tribune Boulogne pour savoir qui sont ces hooligans du PSG et comment ils réagissent au drame du Hesel. Il y a un phénomène de miroir déformant et grossissant. Vous prenez des gens qui boivent beaucoup et qui aiment bien dire des conneries et vous mettez une caméra sur eux, c'est sûr qu'ils vont dire encore plus de conneries. Donc, génial que les gens soient morts, on est nazis, voilà. C'est-à-dire, au-delà même de ce qu'ils peuvent penser, alors il y en a qui sont totalement sincères, mais la plupart en rajoutent beaucoup. Entre août et novembre 1985, il va y avoir toute une série de dégradations de plein de stades partout en France en général, quelques jours avant que le PSG joue là-bas. Donc c'est plein d'endroits du stade qui vont être vandalisés, graffitis, des endroits qui sont brûlés. Et puis des courriers de menaces qui sont envoyés soit aux journalistes, soit à des politiques, soit aussi à des dirigeants de différents clubs de province. Avec des menaces politiques, là aussi, ils en rajoutent énormément. Ils sont fils de SS, ce sont les héritiers de la Waffen-SS. Ils vont installer un pouvoir blanc en France. Il y a énormément là-dedans. Alors, il y en a qui y croient, mais il y en a beaucoup qui en rajoutent énormément parce que c'est leur heure de gloire et que les médias vont reprendre tout ça. Il y a d'ailleurs une énorme... Il y a une médiatisation. Il y a une médiatisation aussi parce que le PSG gagne de plus en plus de matchs. Ils sont en Division 1. Et il y a une surmédiatisation même du phénomène hooligan qui, du coup, lui donne, encore une fois, un miroir grossissant et déformant et qui va attirer encore plus de gens là-dedans. Il y a une surdimension du caractère politique également. C'est-à-dire que quand on n'est pas du milieu, quand on ne connaît pas tous les mécanismes de provocation, il y a beaucoup de journalistes qui vont prendre tout au premier degré et qui vont croire que ce sont de grosses organisations structurées politiques. Or, ce n'est pas du tout le cas. Philippe Brossard sera, à mon avis, le seul à ne pas, à l'époque, surdimensionner le caractère politique. Premier article d'envergure en couverture du Matin de Paris en 1985. Il faut dire qu'il connaît très bien le Parc des Princes, le COP de Boulogne depuis ses débuts et qu'il est familier avec les univers punk et skinhead. Il y a quelqu'un de très important qui s'appelle Fabian, un skinhead qui sera très représentatif au COP de Boulogne et qui dira « On venait pour le foot en revendiquant une sensibilité politique, donc le nationalisme, mais on ne voulait pas transformer le stade en meeting politique. » Alors, c'est subtil, entre guillemets, c'est-à-dire que on plante un drapeau croix celtique, on est chez nous, mais par contre, on ne parle pas de politique, en fait. On n'est pas là pour recruter, on n'est pas là pour discuter toute la journée, on est là pour suivre le match, casser des trucs, se battre. Il y a une autre conception d'un autre personnage qui a été très important, qui est Batskin. À partir de 1985, là, on rentre dans une logique de tentative de recrutement, puisqu'il veut fonder un groupe politique entre voyoucratie et politique. Il va déserter, ça va être globalement, un semi-échec quand même. Il va déserter le parc en 1986 parce qu'il est happé par un groupe politique structuré à l'extérieur. Il va revenir en 1989 sous la forme des jeunesses nationalistes révolutionnaires, le groupe qu'il a formé, et le Pitbull Cop pour l'occasion, pour le stade, qui est pas plus d'une soixantaine de personnes, avec remontée des violences de nouveau, parce que tout simplement le groupe politique auquel il était affilié les ont foutus dehors, donc ils n'ont plus de local, ils n'ont plus de photocopieuse, ils n'ont plus d'endroit où stocker du matériel. Donc ils reviennent au stade avec l'espoir encore de recruter, ce qui est encore un semi-échec, plus proche de l'échec que de la réussite. Pourtant, la direction du PSG, elle, va se laisser un peu avoir, puisqu'elle va négocier avec Batskin et va lui consentir le droit d'exister pour acheter une certaine paix. Il va y avoir d'ailleurs un match au MPSG où finalement il n'y aura pas beaucoup de débordements. Ça veut dire qu'en gros, ils peuvent installer un drapeau croix celtique, ils peuvent être là où ils décident d'être et ils peuvent s'affirmer comme un groupe important, alors que de manière numéraire, on va dire, ils ne le sont pas tant que ça. Il va y avoir le développement de ratonnades aux abords du parc, de plus en plus de personnes maghrébines ou noires qui vont être obligées de partir, de quitter à minima la tribune. Ce qui est très important de comprendre, c'est que les skinheads ont toujours été minoritaires, mais ils ont été extrêmement influents. C'est-à-dire qu'une grande partie de la tribune va se trouver une identité, c'est-à-dire édulcorée, dans le sens où ils ne vont pas du tout se dire nazis, et soyons clairs, ils ne le sont pas. Mais ils vont se reconnaître dans un discours nationaliste, ils vont le reprendre à leur compte. On peut parler là d'une entité, d'un corps supporteriste avec une coloration, une identité. On peut même parler, je dirais presque, d'une corporation au sens où les Anglais appellent un groupe de supporters « a firm ». Philippe Broussard parle de ce phénomène d'extension de la coloration nationaliste à l'ensemble de la tribune, pas à tout le monde, mais en grande partie. C'est le début d'un basculement politique. Boulogne se dessine comme une tribune de petits blancs qui, après le match, se retrouvent dans leur cité de banlieue où, là, ils ne font pas la loi. Au stade, ils sont dans une famille et ils existent. Boulogne témoigne timidement d'un mouvement sociétal profond en train de se dessiner politiquement en France. On pense évidemment à l'émergence politiquement de l'extrême droite. Le stade étant extrêmement représentatif de la société française en règle générale. C'est important de comprendre que même s'il y a cette coloration d'extrême droite qui est forte, c'est important de comprendre que les liens de solidarité et d'amitié entre ces gens sont supérieurs à la coloration politique, comptent davantage. Il y a un changement de visage aussi, c'est parce qu'au début des années 90, en gros, soit les skins quittent le COP de Boulogne, soit ils prennent un look un peu plus passe-partout. On va parler des indépendants, les hooligans indépendants qui ne sont encartés dans aucun groupe de supporters, ou les casuals qui, eux, attachent une importance à des marques de fringues très, très définies. Et il y a cette complexité aussi que, pendant toute la durée du COP de Boulogne, il va y avoir des gens de gauche qui vont choisir, ou antiracistes ou non-racistes, qui vont choisir le COP de Boulogne comme étant leur tribune, se mêler aux autres. Moi, j'ai l'exemple d'un cégétiste qui a voté Parti communiste et ensuite la France insoumise, qui s'est toujours senti chez lui au COP de Boulogne, malgré le fait qu'il savait très bien que la majorité des gens étaient des nationalistes forcenés. Il va y avoir moins de violence aussi à caractère raciste à partir des années 2000. Et puis, il y a un épisode qui est très important, c'est en 1994, les militants du Parti nationaliste français et européen, PNFE, donc là vraiment des néo-nazis, vont venir tracter au COP de Boulogne. En fait, ils ont la sympathie de beaucoup de gens dans le COP de Boulogne, mais ils vont quand même les chasser manu militari. Ils vont leur cogner dessus et les virer. Parce que, comme l'avait dit Fabian quelques années avant, on affiche une couleur, mais on n'est pas là pour faire du prosélytisme. C'est des équilibres qui sont un peu subtils et difficiles à comprendre quand on est totalement de l'extérieur. Deuxième partie, beaucoup plus courte, que j'ai appelée la matrice punk, on va croiser un peu l'engagement passionnel, passion partagée dans les deux milieux, on se déplace au concert comme on se déplace au match, fétichisation de l'écharpe pour les uns, du t-shirt de groupe pour les autres, la position debout, dans les tribunes de supporters ultra, on est debout, on n'est pas assis, on crie, on chante, on s'engage véritablement physiquement. Comportement et organisation, il y a le phénomène des bandes à partir de la deuxième génération punk, la notion de quartier et de territoire qui se retrouve là également. La violence, elle est inhérente de toute façon au phénomène de bandes, donc les bagarres, les dépouilles, les règlements de compte, on les trouve dans les concerts, dans la rue, autour de boutiques comme Neurose, mais aussi au stade ou à ses abords. Les fanzines, ça c'est vraiment le fanzine punk qui a été repris par les supporters. Les rapports aux joueurs, c'est-à-dire on considère, comme le rapport au groupe dans la scène punk, on considère qu'il ne doit pas y avoir de stars, qu'on doit pouvoir les approcher, et puis ne pas parler à la police. Alors, à mon avis, un leitmotiv beaucoup plus respecté par les supporters ultra que par les punks, mais en tout cas, c'est un leitmotiv qui est partagé par les deux. L'importance d'avoir des lieux à soi, la notion de lieu, la ville saine dans le punk, mais dans le stade, c'est un peu une ville saine, la tribune, évidemment, les salles des concerts et le stade, on ne peut faire que des rapprochements. Les bars autour des salles de concert et des stades où les gens convergent avant le début des hostilités, entre guillemets. Les boutiques dédiées, donc Neurose, Le Silence de la Rue, Born Bad Records, Store, selon les époques. Et il y a eu deux boutiques très importantes du côté de la culture supporter, London Steel, où il y a des anciens skins qui ont travaillé, et Chelsea également, avec des anciens skins qui l'ont ouverte. La notion d'expulsion, expulsion de squat, parce que c'est illégal, ou expulsion de cafés qui ne sont pas aux normes de sécurité. Et d'un autre côté, dans les années 2010, la suppression des abonnements. En fait, cette tribune de Boulogne, elle a été totalement démantelée. La tribune en face d'Auteuil également, parce qu'il y avait trop de violence, qu'il y a eu un mort, qu'il y a eu même plusieurs morts. Et que du coup, en supprimant les abonnements, ça veut dire qu'on ne peut prendre que 4 places à la fois, donc on ne peut plus se regrouper. Et je finirai sur les échanges culturels. Alors, dans un sous-genre du punk, la hoï, c'est totalement évident que les chœurs qui sont très présents dans les refrains sont inspirés par les chants des supporters de football. On les retrouvait déjà dans le glam rock en Angleterre parce que beaucoup des gens qui sont rentrés dans le glam rock étaient des skins dans les années 60. Puis j'ai pris quelques exemples. Sherwood, un morceau enregistré en 1983, Paris Saint-Germain, qui est une espèce de code de l'honneur du hooligan. 86, ils sortent un album et au lieu de mettre face A, face B, ça va être virage Auteuil pour la face A et virage Boulogne pour la face B. Donc là, c'est clair. Et puis je cite juste quelques chansons pour finir. 1983, l'infanterie sauvage, Panen et Circonses, où il est question de football. 1985, Commune d'Ernsec dans les tribunes. Ce qui était drôle, c'est que personne ne s'intéressait au football dans le groupe. Rush Orgasme avec un morceau qui s'appelle Supporters, je pense que c'est à peu près pareil. Un autre groupe, Skin, qui s'appelle Sneaks, qui avait un morceau qui s'appelle Supporters. On voit beaucoup d'originalité dans les titres. Un groupe skinhead nazi, Totenkopf, qui a eu un morceau qui s'appelait Football Song, et c'est assez drôle parce que c'est anti-hooligan. Molodoy, qui a eu deux titres, UHT et Les Flammes de la Joie, autour de la culture supporter. Un groupe Oi qui s'appelle West Side Boys, nationaliste gentil, on dira, qui a un morceau qui s'appelle Hooligan. 8-6 Crew, groupe de skinhead reggae, qui a trois titres, Laisse-moi rêver, Jeebers et United, en lien avec cette culture, et un groupe également, alors 8-6 Crew est lié au Red Star de Saint-Ouen, un autre groupe qui s'appelle Oi, qui s'appelle Gonna Get Yours, et eux, ils ont deux morceaux aussi, Echoes of Bower, qui est le stade du historique du Red Star, et Unusual Casuals. J'en ai fini.
Bien. Merci Philippe. Je vous propose, s'il y a des questions avant d'enchaîner sur la seconde présentation autour de cette question plutôt footballistique. Il y a Paul.
Votre présentation m'a beaucoup intéressé parce qu'au même moment, au tout début, j'allais voir le Paris FC quand ils étaient en première division et je me souviens qu'à la mi-temps, on pouvait aller dans tout le stade. Et que c'était une organisation extrêmement artisanale. Et puis par ailleurs, les rares fois où je suis allé voir le PSG, notamment quand Saint-Étienne venait, tout le monde était pour Saint-Étienne et personne pour PSG. La question que je me pose, c'est par rapport... Donc vous avez utilisé de manière un petit peu sans transition le terme hooligan, le terme ultra, mais ce sont quand même deux cultures très différentes. La culture ultra, c'est une culture italienne et qui repose beaucoup sur la chorégraphie, sur des mouvements d'ensemble, sur une esthétisation finalement du supporterisme. Et alors, comment vous, finalement, parce qu'à la fin, vous parlez des ultras comme étant ceux de la tribune aussi Boulogne, et finalement, est-ce que vous avez des éléments justement sur l'introduction ou pas, hein, parce que dans les années 80, il y a Marseille qui s'oppose, et eux, ils sont vraiment dans cette culture italienne. Et donc comment finalement cette culture ultra est l'objet d'une réinterprétation à Paris ?
Alors, j'ai utilisé le terme ultra, il est vrai, dans un objectif de vulgarisation excessif. C'est-à-dire, j'ai voulu l'utiliser dans le sens ultra passionnel, ultra engagé, ultra jusqu'au bout. Il est vrai qu'il y a deux cultures différentes dans le monde du supporterisme. La culture à l'anglaise, qui est vraiment le truc du COP de Boulogne, où c'est finalement une expression assez rudimentaire, des chants, des fumigènes, et ça s'arrête à peu près là, être physiquement investi. Et la culture ultra, qui est effectivement italienne, et qui va être beaucoup plus le credo de Auteuil, en face, la tribune en face, dont je n'ai pas parlé parce qu'il n'y a pas le temps, et qui, elle... Et là, il va y avoir effectivement beaucoup plus de subtilité dans la manière de supporter son équipe, avec des explosions, des couleurs, des tifos, beaucoup d'organisation, un véritable spectacle, en fait, qui, du coup, peut rallier beaucoup plus, d'ailleurs, l'amateur de foot lambda, parce que c'est beau, c'est impressionnant. Là où le COP de Boulogne, c'est souvent cantonné à hurler, quoi, en gros, et à avoir des banderoles provocantes. Mais oui, je conçois que je l'ai... Alors, quand il y a eu les groupes, à partir du moment où il y a eu les groupes constitués, comme les Boulogne Boys, d'autres groupes, on était un peu à cheval, quand même, entre une culture à l'anglaise et l'introduction d'un vernis de culture à l'italienne. Mais fondamentalement, effectivement, c'est vrai, le terme ultra devrait être réservé à ceux qui ont une vraie influence italienne, donc plutôt Auteuil. Non, mais je me corrige moi-même.
C'était la confrontation, justement, et c'est vrai qu'au début des années 90, ou dans les années 90, on mélange un peu les deux, et justement, la tribune Boulogne, face à cette culture ultra, qu'est-ce qu'elle fait, hein? Est-ce qu'elle s'en moque? Est-ce qu'elle
adopte? En gros, c'est assez différent selon les personnes, mais on peut dire, pour schématiser, que ça ne choque pas les groupes constitués. Certains même reprennent des codes de la culture italienne à leur compte, mais que ce qu'on appelle les indépendants, donc en gros les hooligans qui sont encartés nulle part et qu'on n'a rien à foutre de rien, quand on parle de porte-parole du COP de Boulogne, les indépendants ne sont jamais sentis représentés. Eux, je pense qu'ils ont du mépris pour tout ce folklore. Tout ce folklore, oui, je pense qu'ils voient ça comme un folklore et une esthétisation trop importante, quoi.
Bonjour, moi je suis juste un voisin du coin, je ne suis pas chercheur, quoi que ce soit. Je voulais juste rebondir sur le dernier élément, parce que j'ai fait partie des Boulogne Boys, quelques temps. Les Boulogne Boys se sont mis à un endroit où il n'y avait pas forcément de groupe structuré, skinhead, etc. Donc déjà, c'est pour ça qu'il y a eu moins de friction. Par ailleurs, ils attiraient la lumière des médias et des politiques et du club, ce qui permettait aux indépendants et aux casuals de faire un peu ce qu'ils voulaient dans leur coin. Voilà. Et ensuite, je voulais finir aussi sur le fait que le fait d'avoir dissous les Boulogne Boys, ça a radicalisé d'autres qui ont rejoint les casuals et éventuellement les skinheads, qui ont causé beaucoup de problèmes après. Voilà.
Et je rajouterais que bon, c'était évidemment un effet de manche politique de dissoudre les Boulogne Boys vis-à-vis de l'opinion publique, genre... On ne laissera pas passer à cause d'une banderole provocatrice.
Disons que c'est un groupe structuré, loi 1901, et que c'était facile de dissoudre quelque chose qu'on peut dissoudre, sauf que ça a radicalisé un certain nombre.
Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, non seulement c'est juste un effet de manche vis-à-vis du grand public, on va dire, mais qu'en plus c'est totalement contre-productif, parce qu'en fait, quand les gens sont encartés, les RG disposent des noms de tout le monde. Alors que quand les gens ne sont plus encartés, c'est des électrons libres.
Hein. Effectivement, et après, des gens comme moi, qui, je me reconnaissais dans un des exemples que vous avez donné, parce que je suis militant CGT, que je ne suis pas du tout raciste ou quoi que ce soit. Il y avait encore des gens comme moi dans cette tribune-là et qui pouvaient peut-être réduire l'impact nationaliste. Et quand on a été dissous, bah, la tribune a commencé à devenir un peu invivable. Et moi, je suis parti à Auteuil après.
Donc, un schéma assez classique.
Ça a été très... bah, d'ailleurs, les groupes d'Auteuil, c'était beaucoup d'anciens de Boulogne aussi. Hein, les premiers, les Lutèces, ouais. Les Supras, etc. Et ensuite, je voulais juste dire qu'au niveau de Auteuil, il y avait aussi une politique, mais c'était plus une politique contestataire face à ce que pouvait faire le club ou autre.
Ceci dit, du côté... Club de Boulogne, on n'a jamais été très, très copains avec la direction du club. Ils ont toujours considéré que c'est eux qui avaient donné une âme au PSG, une impulsion forte au PSG, et qu'ils étaient traités comme de la merde.
Jusqu'au jour où ils ont été utilisés.
Oui, oui.
Parce qu'ils ont pris des leaders pour faire la sécurité du parc et pouvoir réduire un peu les impacts.
Les deux sont conjoints. C'est-à-dire on utilise des gens qui sont influents pour essayer de cadrer tout ça et que ça soit un peu moins sauvage. Mais en même temps, il y a un mépris, c'est évident, pour absolument tout le monde, quelle que soit sa coloration politique ou pas de coloration politique.
En tout cas, je vous remercie sur l'explication, parce qu'elle était plutôt honnête, contrairement à ce que peuvent véhiculer certains médias,
et mais dans lequel je ne me reconnaissais pas. Journaliste, moi.
Non, mais j'entends, mais c'était vraiment honnête et intéressant. En plus, en 20 minutes, pouvoir faire un peu le panel, c'est compliqué.
Alors moi c'est juste une petite question parce que pour moi c'est pas très clair, donc je ne connais absolument pas la culture hooligan, skinhead comme ça, mais dans les stades, les hooligans se battent contre qui ? Contre eux-mêmes ou ils attaquent d'autres supporters, voire le camp d'en face oui.
On va parler spécifiquement du Cop de Boulogne, en général ils se battent contre les supporters des équipes adverses, mais phénomène unique en France et peut-être même dans le monde, c'est que au Parc des Princes, parmi les supporters du PSG, il y avait deux tribunes opposées qu'on vient de citer, c'est-à-dire Boulogne et Auteuil. Et, alors au départ, c'est juste que Auteuil est une nouvelle tribune. Donc Boulogne, qui est là historiquement depuis plus longtemps, n'admet pas que des petits jeunes viennent... les premières confrontations physiques, c'est vraiment quand... Auteuil commence à chanter plus fort, à s'affirmer, on va dire, physiquement, visuellement et de manière sonore, plus fort que joue la concurrence avec Boulogne. Ça part de là, hein, les premières confrontations. Et après, il y a la coloration politique. Du côté d'Auteuil, il y avait beaucoup d'enfants d'immigrés. Il y a eu des moments où il y en a même qui sont venus en djellaba avec la carte d'identité française dans la main, donc une véritable, véritable opposition à ce que représentait Boulogne. Et du coup, bah, pour les plus, on va dire, radicaux de Boulogne, c'était inacceptable. Et tout ça s'est fini quand même par un mort.
Donc encore une fois, moi j'étais dedans un petit peu, donc si je peux essayer de schématiser un petit peu, quand il n'y avait personne en face dans les clubs adverse, bah ça se réglait les comptes entre soi. Et il faut dire qu'au niveau des incidents les plus violents à la fin, c'est parce que le club, les résultats étaient pourris. Donc on n'avait pas de grosses équipes à rencontrer en face, notamment en Europe, puisqu'il y a des grosses firmes en Europe. Donc ça a engendré plus de contacts entre nous. Et pour l'histoire de la djellaba, c'est vraiment arrivé à la fin où tout le monde s'est vraiment radicalisé dans tous les sens. Moi, par ailleurs, j'ai continué à suivre un peu le PSG en déplacement européen après 2010, donc après le moment où on a tous été virés du stade. Et effectivement, en Europe, on n'avait pas peur des groupes adverses, on avait peur des Parisiens sur lesquels on allait tomber. Donc pour moi, qui avais fait deux tribunes, c'était un peu compliqué, on naviguait un peu entre les deux. Mais voilà, en gros, ça se réglait les comptes entre nous au parc, dans les tribunes, et à l'extérieur, quand il y avait d'autres équipes, quelque chose à se mettre sous la dent, on va dire, c'était moins compliqué.
Bien, merci Philippe.